Je vous invite à ouvrir votre Bible, donc dans le livre des Éphésiens, aux Éphésiens. Donc c'est dans la deuxième partie de votre Bible. Donc vous passez les Évangiles, vous passez Galates et vous n'êtes pas loin. Voilà. Si vous avez la même Bible que moi, c'est la page 768. Donc je vais vous laisser chercher tranquillement, mais j'ai une question. Est-ce que quelqu'un fait de la course à pied ou de la marche nordique? Quelqu'un fait de la marche nordique par hasard? Donc, Magloire disait qu'en courant après le train, il en fait souvent. Donc, j'ai fait une petite recherche. Et en fait, finalement, c'est vrai qu'en France, qu'on ne fait pas beaucoup de marches nordiques, mais en tout cas, dans les Européens, de manière générale, en font beaucoup. Et le principe, donc je ne suis pas expert, hein, mais c'est de ne pas décoller en fait, le talon du pied avant d'avoir posé le suivant. Vous voyez le truc, hein. Donc ça fait qu'on a une démarche assez bizarre, mais visiblement c'est vraiment efficace pour renforcer musculairement ben, notre corps. Parce que j'ai lu que ça fait travailler entre 80 et 90% des muscles du corps, quand même. Ça fait travailler plus que de regarder un match de foot à la télé, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que bah, pour nous, c'est un peu la même chose dans ce qu'on a vu dans ce passage qu'on a vu la semaine dernière. C'est que l'Église est comparée à un corps. Et c'est vrai que ce corps, il a besoin de travailler, il a besoin d'être musclé, il a besoin de grandir, il a besoin d'être coordonné. Et c'est impressionnant, je ne sais pas si vous vous rendez compte, rien que le fait de faire quelques pas comme ça, toute la coordination que ça nécessite en fait, entre les muscles, les articulations, les os et ainsi de suite. Et dès que, par exemple, on a une petite gêne, je sais pas, par exemple, vous êtes fait un bleu quelque part, ça marche un peu moins bien, on le sent. Et c'est vrai que Dieu nous a créés de manière vraiment incroyablement précise pour que tout ça fonctionne. Et justement, c'est ce qu'on a commencé à voir la semaine dernière, et je vous propose qu'on puisse lire ensemble le passage qu'on a vu. Donc c'est Éphésiens 4, verset 1 et les versets 1 à 6. Je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit, de même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous, agit à travers tous et habite en nous tous. Et la semaine dernière, on a été vraiment encouragés dans ce passage à voir que, on a besoin de mettre en pratique notre vocation d'enfant de Dieu, d'être cohérent dans notre vie quotidienne pour que Jésus soit au centre. On a vu dans le livre des Éphésiens que Dieu nous a appelés avant la création du monde pour qu'on soit appelés ses enfants, pour qu'on puisse être dans sa proximité, qu'on puisse connaître toutes ces bénédictions spirituelles. Et tout ça nous appartient déjà. Mais maintenant, il est question de le mettre en pratique aujourd'hui dans notre quotidien. Et juste pour faire un petit résumé de ce qu'on a vu, et si vous n'étiez pas là, vous pourrez regarder la prédication de la semaine dernière, mais l'appel général, c'est vivez de manière cohérente avec votre vocation. Soyez pratique, ne soyez pas seulement des chrétiens du dimanche. Une vie chrétienne authentique, ben aussi, elle aura nécessairement un prix. Paul le rappelle, il dit, je suis en prison pour ma foi. Mais c'est un encouragement à nous conduire d'une manière digne de l'appel que nous avons reçu. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons des privilèges, mais aussi nous avons des responsabilités. Et ces responsabilités, c'est de vivre à la hauteur du salut que nous avons reçu par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Nous sommes appelés à ressembler de plus en plus à Jésus. à marcher de manière digne de la vocation d'enfant de Dieu. Et ça passe par ce choix d'aimer concrètement les membres de notre Église locale. Même si parfois c'est difficile, mais il est question d'être humble, d'avoir de la douceur, de la patience, de se supporter les uns les autres. Pourquoi? Parce qu'on est tous unis par Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas produire l'unité par nous-mêmes, mais nous pouvons la conserver. Parce que Jésus nous a fait ce cadeau de l'unité, mais aujourd'hui nous sommes invités à la conserver, à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour conserver l'unité que Jésus nous donne. Et on a vu que, par exemple, c'était simplement déjà de passer du temps ensemble, de parfois regarder plus à nos défauts que peut-être aux défauts de notre voisin, et de se rappeler surtout que Jésus, il est aussi mort pour notre voisin de gauche et de droite. Et il est dit, il y a un seul corps, un seul esprit, de même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous, agit à travers tous et habite en nous tous. Et je pense que c'est un bon rappel que nous sommes tous au profit finalement d'une même vocation. Nous avons chacun et chacune la même vocation d'être enfant de Dieu. Il n'y a pas des super enfants de Dieu et des enfants de Dieu médiocres. Non, on a tous ce même regard que de ce Père paternel qui nous regarde, qui nous aime, qui nous voit tous comme égaux et comme ses enfants. Et chacun, nous avons cette responsabilité aussi en commun de mettre en pratique cet amour de Dieu dans notre Église locale. Nous sommes équipés de différents dons, c'est ce qu'on va voir, pour justement faciliter le fait que chacun puisse trouver sa place, chacun puisse être édifié. Et je vous invite à lire les versets 7 à 11. Cependant, à chacun de nous, la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, il est monté sur les hauteurs, il a emmené des prisonniers et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi d'abord descendu dans les régions les plus basses de la terre? Celui qui est descendu, c'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir tout l'univers. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps du Christ. Oui, Jésus, il est mort à la croix, il est ressuscité pour que nous puissions être dans la présence de Dieu, pour qu'il n'y ait plus cette barrière qui nous séparait de Dieu. Vous savez, c'est le péché. Péché, c'est un mot qui aujourd'hui a parfois une connotation vieillotte, mais finalement, c'est d'être orgueilleux, c'est de penser qu'à soi, c'est de pas reconnaître aussi la présence de Dieu. Mais il l'a fait pour que tout ça soit balayé devant nous et qu'on puisse être en relation personnelle avec Dieu. C'est-à-dire qu'on puisse s'adresser chacun personnellement à Dieu, le connaître, et aussi qu'il puisse avoir vraiment toute sa place dans notre vie quotidienne et que nous soyons avec lui pour l'éternité. Jésus est venu pour ça, pour nous donner ce qu'on appelle le salut. Mais en plus de ça, on ne le voit pas très souvent dans l'heure des prédications, mais ce texte nous dit que Jésus, il a aussi accompli tout ça pour te donner à toi un don spécial. Chaque enfant de Dieu a reçu un don de Jésus-Christ. Pourquoi ? Déjà, je pense que c'est intéressant de le comprendre, c'est pour l'édification, pour que l'Église entière puisse grandir, pour que tu puisses encourager la personne qui se trouve à gauche et à droite de toi. Par exemple, c'est ce qu'on vit dans les temps de prière ensemble. Mais aussi pour la croissance de l'Église, pour qu'on puisse connaître de mieux en mieux Dieu, mais aussi que davantage de personnes connaissent Dieu et puissent l'adorer. Et pour cela, chacun d'entre nous est individuellement responsable de ce que Dieu t'a confié. Il y a une histoire que Jésus donne pour expliquer je pense ce principe, c'est qu'il a donné à chacun, il donne cette explication avec des talents, il dit, voilà, j'ai donné tant et tant de pièces à l'un, à l'autre, et en fait, chacun était redevable devant Dieu de qu'est-ce qu'il en ferait. Certains l'ont fait fructifier beaucoup, d'autres un peu moins, et il y a quelqu'un qui a caché sa pièce. Et Jésus, il n'était pas fâché avec celui qui n'avait pas fait beaucoup fructifier. Mais par contre, avec celui qui a caché sa pièce et qui n'en a rien fait, il est passé complètement à côté de sa vocation, de la mission qu'il avait. Et je pense pour nous, c'est une question à se poser aujourd'hui avec ce don que Dieu m'a donné. Peut-être vous ne le connaissez pas encore, mais c'est aussi pour ça que le fait de se voir, de passer du temps ensemble, ça nous aide à discerner les uns les autres notre don. On va en reparler. Mais le fait de dire « moi, j'en ai pas », je pense que ce n'est pas honorer le sacrifice de Jésus-Christ, déjà. Deuxièmement, le fait de dire « moi, je n'ai pas le temps pour l'utiliser, pour le mettre à disposition en fait, des frères et des sœurs de Jésus », je pense que ce n'est pas la bonne voie non plus, ce n'est pas ta mission. Et on est individuellement responsable de ce qu'on fait. Et je pense que le fait de se rappeler que Jésus il est aussi mort à la croix, qu'il a aussi souffert à la croix, pour que tu puisses vraiment rentrer dans cette vocation d'enfant de Dieu et accomplir ta mission dans ce monde et dans ton Église, je pense parfois ça fait un bon rappel. En tout cas, moi, ça m'a sonné quand j'ai lu ça. Je me suis dit, mais c'est vrai que Jésus, il est aussi mort pour ça. Il a aussi souffert pour ça. Parce qu'il a fait ce choix, avant la création du monde, de m'aimer, mais aussi de me choisir pour que je sois son enfant de Dieu et que je vive comme Jésus-Christ lui-même. Ce n'est pas anodin. Il n'y a personne d'autre dans le monde qui investira autant sur vous, qui vous appellera à vivre cette vie qui est vertueuse, cette vie qui tend à vivre les mêmes choses que Jésus lui-même a vécues. Obéissance parfaite à Dieu, mais aussi être dans la présence de Dieu, connaître Dieu, lui parler à chaque instant. Et ça, c'est le plus grand cadeau qu'on puisse faire. Ce n'est pas le faire pour le faire, mais c'est simplement de savoir que Dieu t'a choisi. Cependant, à chacun de nous, la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, il est monté dans les hauteurs, il a emmené des prisonniers et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie les monter, sinon qu'il est d'abord descendu dans les régions les plus basses de la terre? Ce dont il est question, c'est que Jésus, en fait, il a fait ce choix de venir dans le monde pour vivre une vie qui est comme la nôtre. En fait, il a connu la souffrance, il a connu des privations, il a connu des injustices. Il a dû travailler, il a dû apprendre à lire, à compter, et ainsi de suite. Et il a accepté d'être livré, de souffrir pour nous, d'être torturé même, mais il est ressuscité. Et il a donné à chacun d'entre nous un don particulier. Si tu es là ce matin, si tu fais partie de l'Église, ce n'est pas par hasard. Dieu t'a sans doute donné un don, que ce soit l'hospitalité, accueillir des personnes chez toi, par exemple, de la solidarité, prendre soin des uns des autres, prendre soin peut-être des personnes qui sont nécessiteuses. Peut-être il t'a donné des dons pour de la gestion, ou peut-être pour de l'enseignement, expliquer des choses, que ce soit des bibliques, ou aussi peut-être même d'autres choses que simplement la foi. Par exemple, si on prend cette question de soutien scolaire, c'est une façon simple aussi d'utiliser un don peut-être que Dieu t'a donné pour expliquer de manière simple un problème mathématique. Mais il y a plein d'autres choses. Il n'y a pas une liste intégrale de tous les dons. On va en revenir sur certains, mais il y a ce don d'encouragement. C'est par exemple quand on prie ensemble, c'est de pouvoir dire des mots qui vont encourager quelqu'un d'autre qui peut-être est dans la souffrance, peut-être dans la maladie, peut-être qui vit la solitude. Par exemple, dans ces temps de prière, c'est un temps où tu manifestes aussi ce don d'encouragement. C'est un temps où, par exemple, par un chant aussi, tu peux redonner du courage à quelqu'un, tu peux rappeler une vérité de qui est Dieu, de ce pourquoi tu as été créé. Donc, ne passe pas à côté. Et avec les responsables de l'Église, on veut aussi être disponible, et c'est pour ça qu'il y a même une petite feuille pour prendre rendez-vous, pour prendre ce temps de dire, voilà, qu'est-ce qui te fait vibrer dans ton quotidien? Qu'est-ce qui te fait vibrer pour Dieu? Où est-ce que tu as des facilités que Dieu t'a données pour rentrer à son service, contribuer à ce grand projet que Dieu a pour l'humanité, de le connaître? Et bien sûr, Jésus, il est venu pour te donner le salut, d'être dans la présence de Dieu, de le connaître, d'être réconcilié avec Dieu, mais aussi t'a donné d'être dans ta vocation d'enfant de Dieu. Et pour ça, je pense que c'est vraiment important de se rappeler ça. Jésus, il a payé le prix fort. Il n'est pas venu dans la demi-mesure. Il a tout donné pour toi et pour moi. Jésus, pour ça, il a vaincu le diable, il a vaincu le péché. Et après, il s'est installé à la droite du trône de Dieu. Il a fait ses cadeaux à l'Église. Et ce cadeau, il te l'a confié à toi pour l'Église. Verset 10, celui qui est descendu, c'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir tout l'univers. C'est quelque chose qu'on a vu au début de l'épître, c'est que Jésus, il est souverain sur toute chose. C'est lui qui règne, c'est lui qui va donner un monde parfait, sans tache, sans rides, où tout fonctionnera bien et on sera comme placé dans un écrin parfait de ce que Dieu a prévu pour ses enfants. Et c'est bon de se rappeler ça, parce que peut-être pour aujourd'hui, il y a des choses qui sont déroutantes dans notre quotidien. On peut peut-être vivre des choses difficiles, peut-être dans notre travail, peut-être parfois même dans notre couple, peut-être dans notre famille, dans plein d'endroits. Mais le fait de savoir que même sur ça, Jésus est souverain et que devant nous, il y a de belles choses qu'il a préparées d'avance pour nous. Et Christ, pour cela, il est souverain. C'est lui qui règne sur toutes les situations de nos vies. Et nous, on peut passer à côté de ces défis-là, d'être un enfant de Dieu, d'être dans notre vocation. Il y a des moments où on tombera, des moments où on ne sera pas au niveau de ce que Jésus il attend. Et c'est normal. Mais par contre, ce qui est bon de se rappeler, c'est que Jésus il est toujours là pour nous relever, nous rappeler, je t'ai choisi, je t'ai aimé, je t'ai appelé à être enfant de Dieu. Vas-y, continue, va de l'avant. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve souvent dans les épîtres de Paul, c'est pas dans nos forces qu'on accomplit la volonté de Dieu, mais c'est dans nos faiblesses, c'est dans le fait qu'on est dépendant de la volonté de Dieu, qu'on est dans l'humilité, qu'on est dans son attente, et savoir que par nous-mêmes, on peut rien faire, mais on peut s'attendre à lui dans chaque domaine de nos vies. Et c'est pour ça que Jésus aussi te donne ce don-là, de pouvoir y contribuer à ta mesure, et après ça évolue aussi en fonction du temps. Peut-être à un moment, tu utiliseras peut-être plus ton d'hospitalité. Peut-être dans l'avenir, tu utiliseras peut-être plus le don de gestionnaire, je ne sais pas. Mais soyons attentifs à ce que Jésus nous demande. S'il y a quelque chose qui vibre dans ton cœur, parce que tu sens que tu as un appel de Dieu pour le servir dans tel ou tel domaine, ne passe pas à côté, ne dis pas « je ne suis pas assez bien » ou « je n'ai pas le temps » ou toutes ces fausses excuses, vous savez, je pense qu'on s'y reconnaît chacun d'entre nous. Mais ne laisse pas ça de côté. Ne sois pas celui qui aura caché ta pièce. Ça ne vaut pas la peine. C'est gaspiller finalement ce cadeau qui est vraiment tellement important. Jésus, il te l'a donné à toi personnellement, à moi et à notre Église pour que l'évangile de Jésus rayonne, pour que son amour rayonne, pour que des personnes qui ne le connaissent pas le connaissent. Et au verset 11, il est dit, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Je ne vais pas trop détailler parce qu'on l'a déjà vu aussi au début de l'épître aux Éphésiens, mais qu'est-ce que c'est un apôtre ? Oui, dans le sens biblique, quelqu'un se rappelle ? Il faut être courageux, là. C'est qui, alors ? Un apôtre, c'est quelqu'un qui est envoyé. Un disciple, c'est celui qui suit. Mais il y avait tout, c'est bon. Donc, c'est quelqu'un qui est envoyé par Jésus. Et dans le Nouveau Testament, Jésus a choisi ces personnes, il les a formées, il les a envoyées. Et il y avait des critères, en fait. Pour être apôtre, il fallait avoir vu Jésus ressuscité, avoir été formé par Jésus en personne et être en mesure de transmettre l'enseignement de Jésus. Et on le voit dans le livre des Actes des Apôtres aussi, ils ont été vraiment dans cette continuité d'affermir l'Église sur les enseignements de Jésus. Et ceux qui les accompagnaient, c'était aussi de voir des miracles se produire dans les communautés. Mais à leur mort, de ces apôtres-là, donc de ces 12 plus Paul, c'est aussi le temps où la révélation biblique s'est arrêtée, en fait, avec la mort de Jean et l'écriture du livre de l'Apocalypse. En fait, on a pu continuer d'écrire de nouveaux livres dans la Bible. Vous êtes tous d'accord avec ça ? Ah, merci. Et aujourd'hui, c'est vrai que il n'y a plus vraiment d'apôtres dans le même sens où, par exemple, on ne continue pas d'écrire la Bible à chaque fois que quelqu'un dit quelque chose. Par contre, Dieu continue d'envoyer. Il continue d'envoyer des personnes dans des lieux où il n'y a pas encore de témoignage de l'Évangile. Ça peut être dans le côté missionnaire, ça peut être quelqu'un qui implante une église, ça peut être quelqu'un qui aussi encourage tout un réseau d'églises, qui rejoint aussi des peuples ou des cultures qui ont peu accès à l'Évangile. Donc ça, ça, C'est quelque chose qui continue, mais ce n'est pas dans le même sens que quelqu'un qui continuerait d'écrire la Bible. Vous voyez ce que je veux dire? Tout le monde est avec moi? Ok. Et après, les prophètes. Le mot prophète, ça pourrait se résumer à porte-parole, c'est-à-dire parler aux hommes de la part de Dieu. Et c'est vrai que ben, les prophètes, on les a surtout vus dans l'Ancien Testament, parce que ben, quand vous regardez à peu près la moitié de l'Ancien Testament, en fait, c'est des livres prophétiques. Donc, par exemple, il y a Jérémie, il y a Osée, il y a qui d'autre? Quelqu'un a encore un nom? Ésaïe. Habacuc. Bon, il y a toute une panoplie, si vous cherchez des noms pour vos enfants. Mais ils avaient aussi ce rôle, en fait, de parler de la part de Dieu au peuple, bah, d'Israël, mais aussi les peuples autour. Et c'est pour ça qu'ils ont rédigé de nombreux livres de l'Ancien Testament. Et tous ces livres, en fait, rappelaient ce que Dieu veut pour les hommes, et ils annonçaient la venue du Messie, c'est-à-dire la venue de celui qui les sauverait. Et nous savons que c'est Jésus. Mais aussi, dans ce cas-là, ces prophètes, dans ce sens-là, bah, ils se sont arrêtés parce qu'on n'a pas écrit de nouveaux livres dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament sur la base de ces prophètes. Mais leur rôle, en fait, c'était justement d'expliquer la parole et de l'appliquer dans le contexte qu'ils étaient en train de vivre. Par exemple, il y avait peut-être un temps où il y avait une nouvelle divinité qui apparaissait, et eux, ils étaient là. Il disait, n'adorez pas Baal, mais adorez Dieu. C'est Dieu qui vous a créé, c'est lui qui est le vrai Dieu. C'était ça leur rôle. Et aujourd'hui, finalement, ben, dans ce sens-là, il peut encore avoir on va dire, des prophètes qui vont simplement rappeler en fait qu'est-ce que dit la Bible, mais ils vont pas écrire encore la suite de la Bible. Leur rôle, ça va être d'expliquer, d'encourager et aussi de confronter parfois s'il y a des questions d'hérésie. Et aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de nouvelles révélations de Dieu parce que Jésus, il est déjà venu. J'ai entendu un Amen. C'est la plus grande nouvelle, c'est ce que ont annoncé des générations et des générations de prophètes, et nous maintenant on l'expérimente. Mais aujourd'hui, on a encore ce privilège en fait de pouvoir nous encourager les uns les autres. Par exemple, quelqu'un qui vit une situation, je sais pas, dans son travail, et qui vient vous voir et qui peut-être a besoin d'encouragement, parce que peut-être son patron lui a demandé de mentir, hein, peut-être sur la comptabilité ou ce genre de choses. Vous avez besoin. Et vous êtes peut-être confronté à cette situation-là, ben vous pouvez peut-être en discuter avec un ami de l'Église, et c'est quelqu'un qui va aussi vous encourager à rester ferme, à rester intègre devant Dieu, vous voyez? Ça peut être peut-être dans les situations de la vie quotidienne, sur, je sais pas, notre vie de couple, notre vie avec de parents, nos relations avec nos amis, nos voisins. On peut vraiment aussi s'attendre à ce que Dieu nous parle par les personnes qui sont autour de nous et qui nous rappellent finalement qu'est-ce que dit la Bible sur ce sujet-là. Mais ce n'est pas quelqu'un qui va te dire Dieu m'a dit pour toi que. On n'a pas cette vocation de dire que, bah, de prendre cette autorité, de dire Dieu m'a dit que. Par contre, on peut dire bah, la parole de Dieu, elle dit cela, ou moi j'ai à cœur de t'encourager dans ce sens-là. C'est peut-être juste ça qui est important de se rappeler, c'est de laisser la souveraineté à Dieu, l'autorité à Dieu. Et par exemple, bah, dans des temps de prédication, c'est ce qu'on s'attend à vivre. C'est qu'il y ait une parole qui nous parle de manière assez précise dans peut-être des sentiments, des émotions, une situation que l'on connaît, et on s'attend à Dieu pour qu'il intervienne, pour peut-être qu'il nous encourage, qu'il nous dise s'il faut persévérer ou non dans ce sens-là. On peut vraiment s'attendre à ce que Dieu nous parle au travers de sa parole, dans ces temps où on est ensemble. Dieu utilise cela. C'est pour ça le fait de se fréquenter avec des membres de l'Église, avec des frères et des sœurs, c'est vraiment un temps propice où Dieu peut aussi se révéler à nous. Et ça ne sera pas toujours par une parole, ça sera peut-être juste en observant une attitude de quelqu'un, Dieu peut se servir aussi de ça. Mais je pense vraiment que Dieu continue de parler et il nous encourage. Les évangélistes, en fait, c'est ceux qui proclament la bonne nouvelle de l'évangile. Et le don d'évangéliste, c'est la capacité de présenter l'évangile de Jésus-Christ de manière simple et compréhensible dans une culture. Par exemple, un évangéliste qui irait chez les Inuits, s'il devait leur expliquer qu'est-ce que c'est un agneau, il va peut-être adapter un tout petit peu pour qu'ils comprennent, parce que peut-être qu'ils n'auront jamais vu d'agneau de leur vie, mais des pingouins, ils en auront vu beaucoup. Et vous voyez, c'est un exemple très basique, mais c'est l'idée de pouvoir expliquer qu'est-ce qu'a fait Jésus, qui est Jésus, à des personnes qui sont peut-être pas, qui ont peut-être peut-être aucune connaissance de la Bible, qui n'ont peut-être jamais entendu le nom de Jésus. Et c'est d'être simplement concret et pratique pour expliquer l'évangile dans la culture dans laquelle on se trouve. Et ici aussi, ben, c'est entre quelqu'un qui est par exemple très matérialiste, ben, si vous lui jetez juste des versets de la Bible, ça ne marchera peut-être pas. Par contre, si vous arrivez à lui expliquer comment la Bible, elle parle à ces vraies questions de fond, pourquoi suis-je sur Terre? Comment est-ce que moi je peux expérimenter l'amour? Comment est-ce que je peux la transmettre à mes enfants? C'est peut-être des temps où Dieu pourra vous utiliser aussi pour l'encourager, pour encourager ces personnes et à le connaître. Et enfin, pasteur et enseignant, c'est vrai que bah, y a un petit débat à savoir si c'est une personne ou deux personnes, mais je pense que ce n'est pas vraiment le propos ce matin, mais je pense que ce qui est intéressant surtout de se rappeler, c'est qu'un berger, en fait, il est là pour guider dans des lieux propices le troupeau, de protéger le troupeau pour qu'il ne soit pas blessé ou divisé, ramener aussi les brebis qui s'égarent à gauche, à droite, donc le berger court un peu dans tous les sens, et aussi bah, c'est de nourrir les brebis en leur donnant ce qui est nécessaire pour bah, qu'elles puissent bien grandir et être nourries. Et l'enseignant, bah, du coup, c'est quelqu'un qui est capable d'expliquer ce que dit la Bible de manière simple et synthétique pour que chacun puisse se l'approprier à son niveau. Et c'est là où ben, Dieu pourvoit à des personnes qui sont des cadeaux pour l'Église. Chacun a reçu des dons, mais il y a aussi des personnes qui sont des cadeaux pour l'Église, qui en fait, c'est pas qu'elles sont plus importantes que d'autres, ou c'est pas du tout ça la question, c'est juste qu'elles ont un rôle particulier. En fait, ce don dont il est question va vraiment les imprégner dans tout ce qu'ils sont, dans leur caractère, leur connaissance, leur sensibilité. Et le rôle de l'Église, en fait, ça va être de repérer ces personnes-là, de les reconnaître, de les encourager, puis aussi de les suivre. Mais toujours en se posant la question, est-ce que ce qu'il est en train de dire, est-ce que ce qu'il est en train de faire, est-ce que ça colle à ce que dit la Bible? Et ça, c'est notre responsabilité à chacun. Ce n'est pas parce que quelqu'un te dira « je suis apôtre, prophète, pasteur » ou je ne sais pas trop quoi qu'il a raison. Ce qui a toujours raison, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Verset 12, il l'a fait pour former les saints aux tâches du service, en vue de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc comprenez bien que Dieu donne la diversité des dons, la diversité des personnes pour trois objectifs. La maturité, c'est-à-dire de connaître Dieu de plus en plus, l'unité, c'est-à-dire un seul Jésus, un seul baptême, un seul esprit, c'est ce qu'on a lu avant. Et la croissance dans notre ressemblance à Jésus, mais aussi la croissance pour que davantage de personnes le connaissent et vivent pour lui. Et nous, dans notre Église, nous souhaitons pouvoir grandir ensemble et vivre cette diversité par rapport à tout ce que Dieu nous a donné. Il nous a donné la diversité des dons, la diversité des personnes, la diversité des cultures. On est vraiment chanceux que Dieu nous ait donné tout cela. Et c'est pour ça que ça se passe aussi dans le fait que chacun doit trouver sa place, chacun doit trouver son service, son don, pour construire ensemble l'Église de Dieu dans cette ville de Morelon et Orvan, mais aussi dans toute cette région, et qu'on puisse mettre à disposition ces dons, que ce soit de la solidarité, que ce soit de prendre soin des uns des autres, de manifester de l'amour. Mais pour cela, bah, ça nécessite de se rendre disponible, de prendre du temps pour cela, mais de se rappeler qu'en fait, c'est vraiment le temps le plus précieux qu'on puisse investir en le mettant à disposition de Dieu et à disposition des autres, parce que c'est ce qui restera pour l'éternité. Peut-être les programmes informatiques qu'on aura écrits, les saisies comptables qu'on aura fait, c'est important. Mais ce n'est pas forcément ce qui restera pour l'éternité. Peut-être certains d'entre nous auront des placards avec plein de livres de comptabilité. Il y a de la déco pour tout le monde. Hein. Mais par contre, ce qui restera, c'est surtout l'amour. C'est ce qui nous a rappelé dans la Bible. L'objectif, c'est que nous parvenions tous à l'unité, tous à l'unité de la foi, la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la stature parfaite de Christ. Notre objectif en tant que disciple de Jésus, c'est de lui ressembler de plus en plus et d'être dans cette continuité de ce qu'il nous a appris, de ce que lui-même a fait. Et c'est pour ça que tout ce que tu fais dans ton église, que ce soit des tâches pratiques, quand tu refais de la peinture, quand tu fais le ménage, quand tu prends du temps pour prier, pour téléphoner à un ami, pour toi-même t'instruire en lisant ta Bible ou en lisant un livre, bah tout ça contribue à ce que l'Église en général grandisse. Et souhaitons vraiment chacun être disponible les uns pour les autres, en fait, pour pouvoir prendre part à ce service, à être et à le faire avec joie, avec ce cœur qui est d'abord orienté vers Dieu. Et c'est pour ça que nous voulons ensemble, dans notre Église, vivre la maturité. Nous voulons viser à la maturité de chacun. Et enfin, pour finir, les versets 12 à 16. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des petits-enfants ballottés, emportés à tout vent de doctrine par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni, grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans l'amour. Et c'est pour ça que c'est un choix personnel de dire: je veux vivre dans la vérité. Je veux pas vivre dans le mensonge, mais je veux vivre dans la vérité, je veux vivre dans la lumière de Christ. Et la croissance de l'Église, comprenez ça, bah elle est à la fois qualitative, parce qu'on veut connaître de plus en plus Dieu, on veut mener une vie qui est de plus en plus compatible à ses normes, mais aussi, c'est que davantage de personnes puissent connaître Christ. Et aussi rentrer dans ce cheminement d'être disciple de Christ et de mener cette vie qui est abondante. Excusez-moi, ça, faut que je prenne. Hein. C'est le problème de chanter, de prêcher après. Et Jésus, et c'est ça qui est intéressant de comprendre, c'est que c'est Jésus lui-même qui fait grandir son Église. C'est Jésus lui-même qui pourvoit aux dons et c'est Jésus lui-même qui pourvoit aux responsables. Et nous, notre rôle, finalement, c'est d'enlever des obstacles qui nous empêchent de mettre en pratique nos dons, de peut-être certains d'exercer notre ministère et, de manière générale, de grandir dans cette maturité-là. C'est-à-dire, par exemple, qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de lire ta Bible? Est-ce que c'est Netflix? Est-ce que c'est toutes tes notifications sur ton téléphone? Si c'est une notification qui, à chaque fois que tu lis trois versets, tu passes finalement sur Facebook ou Instagram, désactive les notifications. Vous voyez, c'est des choses parfois simples. C'est par exemple de gérer son agenda pour trouver des temps pour participer à la vie de l'Église, passer du temps avec les uns et les autres. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est plus qu'on connaîtra Jésus, plus on voudra lui ressembler, plus en fait on enlèvera ce qui est un obstacle pour le connaître. Et c'est pour ça que c'est important de connaître la parole de Dieu. Il dit que ainsi nous ne serons plus de petits-enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement, mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. Savoir comment la Bible présente l'Église, comment elle présente la vie chrétienne, c'est ce qui va nous garder de suivre en fait parfois nos émotions qui peuvent être trompeuses. Ça peut nous garder de suivre peut-être un faux enseignant qui a simplement du charisme, qui sait vendre les choses, ou peut-être quelqu'un qui est malhonnête. Mais c'est de revenir finalement à qui est Christ, comment il présente ça dans la Bible, et de pouvoir trouver la volonté de Dieu. Comprenez que beaucoup d'églises connaissent des divisions à cause de fausses doctrines, par la recherche de manifestations qui ne sont pas fondées sur la Bible. Par exemple, certains ont inventé une doctrine comme quoi il pleuvrait des paillettes d'or pendant le culte. Bon, moi, je pense que c'est surtout une astuce pour trouver plus de personnes pour faire le ménage. Mais combien facilement on peut avoir des fausses doctrines, des choses qui nous détournent de Jésus-Christ qui est mort et ressuscité à la croix pour qu'on le connaisse. Combien d'églises ont été brisées par la recherche de quelque chose de plus que l'évangile, par peut-être par un orgueil qui est déplacé, quelqu'un qui se met à la place de Christ dans l'église. C'est là que c'est bon de se rappeler, c'est de lui, Jésus, que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni, grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Ça me fait penser à cette image justement de la marche nordique. Chacun des muscles, chacun des articulations est à sa bonne place et tout avance ensemble. Et c'est vraiment, je pense, cette image de Jésus pour l'Église. Lui, il sait où il veut aller, il nous a donné des consignes, il a équipé tout le corps avec des muscles, des articulations pour que ça fonctionne. Et là, justement, les leaders, ce n'est pas la tête. Le leader, il doit être une des articulations. C'est lui qui doit entraîner les biceps et l'avant-bras et ainsi de suite pour que ça suive. Et c'est vrai que parfois, on peut avoir des temps où on a besoin de vivre dans la vérité. Ça nécessite d'avoir des discussions parfois un peu délicates, mais c'est tellement important. Et en Proverbe 27, il est dit cela: « Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, tandis que les baisers d'un ennemi sont trompeurs. » Et c'est vrai que parfois, on n'est pas très doué. On veut tous faire des progrès là-dedans. Mais en fait, aimer quelqu'un, c'est lui parler franchement, avec de l'amour. Mais se cacher quand il passe, parce qu'on sait qu'il y a quelque chose qui ne colle pas, et passer à chaque fois à côté, ça, c'est pas l'amour et c'est pas aimer. Donc, pour appliquer cette démarche, c'est déjà d'accepter de grandir, de vouloir ressembler à Jésus de plus en plus et d'être authentique dans notre façon de vivre le quotidien, mais aussi dans l'amour qu'on manifeste les uns les autres dans l'Église, mais aussi à l'extérieur. Et je pense que c'est vraiment un chemin vertueux. Plus nous regarderons à Jésus, plus nous l'imiterons. Plus nous l'imiterons, plus nous lui ressemblerons. Plus nous lui ressemblerons, plus nous lui rendrons gloire et honneur. Et j'ai une voisine, l'autre fois, on l'a croisée dans la rue, puis on lui a demandé si ça allait un peu mieux, son genou. Et elle a dit, non, en fait, ça grince, parce qu'elle a eu une prothèse. Et alors, dans la rue, elle nous a dit, le médecin m'a proposé de revenir, et après il m'endort, et après il fait chlac, chlac, chlac. On s'est senti mal dans la rue. Mais c'est vrai que parfois on a besoin d'avoir un temps comme ça, où peut-être il y a des choses qui grincent, et qu'on puisse le régler, même si c'est un peu douloureux. Et aussi, je pense qu'au niveau de toute l'Église, vous savez, je pense que quelques-uns parmi nous ont parfois des difficultés, en fait. Et, par exemple, si vous avez mal à une jambe, peut-être au genou, on a tendance à compenser sur l'autre. Et je pense que c'est si on est là pour prendre soin des uns des autres, mais aussi c'est vrai que parfois quand quelqu'un ne prend pas sa place et ne prend pas son appui justement, c'est les autres qui doivent compenser. Et au bout d'une fois, deux fois, peut-être quelques semaines, ça va. Mais au bout de quelques années, ça peut épuiser des personnes. Et je pense que c'est vraiment cet appel à être solidaires les uns des autres, parce que peut-être quelqu'un qui avait une douleur, enfin une jambe qui était douloureuse, ça peut commencer à se propager à l'autre, voire au dos. Et je pense que ça nous encourage à chacun prendre notre place dans l'Église. Et je voudrais juste vous laisser encore cette pensée-là, c'est qu'on se rapproche des beaux jours, mais est-ce que quelqu'un d'entre vous a besoin de parler à une plante pour qu'elle grandisse? Non, pas encore. Ça tombe bien, vous me rassurez. Mais c'est vrai que Jésus l'a donné tout ce qui est nécessaire pour que ça grandisse. Et nous, on a simplement besoin d'enlever peut-être ce qui est un obstacle, arroser, mais ça va pousser tout seul. Et je pense que c'est cet encouragement pour l'Église, c'est que ce n'est pas nous qui faisons les choses, c'est Christ. Par contre, on peut enlever ce qui est un obstacle, on peut arroser avec de l'amour, on peut arroser en lisant la Bible, par nos prières, mais ça va pousser tout seul, et c'est Jésus qui le fait. Et je pense que c'est tellement réconfortant de savoir que ça ne dépend pas de nous. Et je vous propose de prier. Oui, Père, je te remercie parce que tu nous as donné la possibilité de vivre l'Église dans cette région. Nos prédécesseurs, ceux qui ont vécu il y a quelques centaines d'années ici, peut-être 200, 300 ans, ce n'était pas facile. Il n'y avait pas d'Église encore il y a quelques années, quelques décennies. Et on est tellement reconnaissant de pouvoir nous retrouver ici, de pouvoir passer ce temps à être à ton écoute pour mieux te connaître. Et je te prie, s'il te plaît encore, que tu puisses sonder nos cœurs pour que nous puissions vraiment mettre à disposition de toi et de ton Église tout ce que tu nous as confié. Que nous soyons vraiment dans cette attitude qui t'honore, où on se rend disponible et on veut se rappeler vraiment que tu as payé le prix fort pour que nous soyons là aujourd'hui comme les enfants de Dieu, mais aussi équipés de tous les dons qui sont nécessaires à la croissance de ton Église. Je te prie, s'il te plaît, que tu nous aides chacun à quotidiennement mettre cela en pratique dans nos vies. Je te prie ainsi dans le nom de Jésus. Amen.